Bonjour, la Terre à boire en mode un petit peu reportage. Et en même temps, on a quand même posé le matos pour faire un vrai petit studio de radio. On est au salon Vivre Autrement. Je suis avec Patrice et avec Grégoire. Salut les gars.
Salut.
Bonjour.
Et on est bien, on est dans le calme là.
Ouais. Alors, oui, excusons-nous tout de suite du fait qu'il y a un peu de bruit. Bah voilà, on est dans un salon, on n'est pas dans un coin extrêmement feutré, dans un coin du salon. On est au milieu, à côté du bar à vin. Et Vivre Autrement, c'est vraiment un grand salon. Vinibio au sein de Vivre Autrement, c'est pas si immense. Il y a pas mal d'exposants, mais Vivre Autrement, c'est pas que du vin. On va en parler. On va en parler avec Lila Carité, notre invitée. Bonjour Lila.
Bonjour.
Qui est donc l'organisatrice de Vinibio. Tu
oui,
n'organises pas tout Vivre Autrement.
Oh là non, 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 juste le secteur Vinibio et c'est déjà suffisant, je pense. Oui.
Alors, merci de nous accueillir.
Voilà, avec grand plaisir.
Cette invitation. On a également des vignerons avec nous. On va commencer avec toi, Lila, mais on les salue tout de suite. Sabine Durand, bonjour.
Oui, bonjour.
Du domaine de la Tribale en Languedoc et en Pic-Saint-Loup.
Alors, Languedoc, Grès de Montpellier et Pic-Saint-Loup.
Trois appellations.
Voilà.
Et quelqu'un dont on a déjà parlé dans cette émission il y a quelques temps, Fabien Boisard, bonjour.
Bonjour.
Du domaine du Mortier en Loire.
Domaine du Mortier, voilà, entre Angers et Tours. Hein.
Appellation
Alors, Bourgueil, Saint-Nicolas de Bourgueil.
Des vins qu'on avait beaucoup aimés, c'est Grégoire qui nous les avait présentés. On va commencer un petit peu avec toi, Lila, pour parler du salon. Et puis, ce n'est pas le seul. Je disais, il y a un autre Vinibio qui a lieu un peu plus tôt dans l'année. Et tu organises également Marjolaine, qui est à l'automne, pas du tout.
Alors, la SPAS Organisation, qui organise Vivre Autrement et Vinibio, organise Marjolaine. Moi, je conseille Sébastien, qui s'occupe de Marjolaine, sur les vins, mais je n'ai pas la prétention d'organiser quoi que ce soit à Marjolaine.
D'accord. Et Grégoire, tu avais quelques petites questions pour Lila Carité, notre invitée.
Oui, ben, Lila, on s'était déjà croisés. Donc, tu as commencé dans l'édition en reprenant la maison d'édition fondée par tes parents, spécialisée dans le bio, et tu t'es spécialisé avec ton père dans le vin bio, avec le guide Carité des bonnes adresses du vin et de la biodynamie, du vin bio et biodynamique.
Voilà, exactement, nos bonnes adresses. Mon papa a commencé ça il y a presque 40 ans maintenant, et je crois que le livre faisait alors une quinzaine de pages, où il recensait absolument tous les vignerons qui étaient en bio, en France à l'époque, et actuellement, maintenant, on est sur un guide où on choisit nos bonnes adresses, parce que tant mieux, la bio a progressé, ils sont de plus en plus de vignerons à être en bio actuellement en France et en proche Europe. Et j'ai l'honneur de continuer effectivement le travail que mon père a initié il y a maintenant 40 ans de ça, oui.
Et alors, comment est-ce qu'on passe de l'édition à l'organisation d'un salon bio ?
Bon, mes parents, on baigne dans les salons. Mes parents étaient exposants d'abord sur les salons. Avec leur maison d'édition, ils avaient un stand qui représentait la maison d'édition. Chemin faisant, on a animé les dégustations de vin dans les salons. Et chemin faisant, on a fait de plus en plus appel à nous pour en fait sélectionner en quelque sorte les vignerons qui seraient présents pour ne pas avoir par exemple 40 Bordeaux et 2 Loire, mais avoir quelque chose d'hétérogène sur les salons. Et après, ça a découlé de source qu'il fallait un salon consacré au vin bio vraiment pour rendre un peu ses lettres de noblesse, on va dire, au vin bio et le détacher, en fait, des produits bio, du généralisme de la bio. Et je dois dire que c'est grâce à des vignerons, notamment le mari de Sabine, Olivier Durand, qui m'ont poussé, on doit le dire, à organiser Vinibio et à faire un salon uniquement consacré au vin biologique.
Dans une région, Montpellier, ou proche de Montpellier, où il y a peut-être un des plus grands événements bio, qui est Millésime Bio, qui est un des grands salons.
Alors,
bio.
C'est un salon que je connais très bien, puisque j'ai eu la chance de le présider, moi, pendant 6 ans.
Qui est devenu un événement important,
voilà.
Qui fait même des petits, avec des petits salons, des off, comme au Festival d'Avignon, on a le in et le off. Ici, on est à Vivre Autrement. Je le disais, ce n'est pas seulement du vin, c'est aussi tout un environnement. Est-ce que ça change la donne ? Est-ce que ça apporte beaucoup de trafic, j'imagine ?
Alors, j'imagine que c'est plus aux vignerons qu'il faut demander ça en tant qu'exposant, mais c'est sûr que du coup, ils n'ont pas un public ciblé sur le vin, ils ont un public qui s'intéresse à vivre autrement. Alors, ça, c'est très, très large comme thème. Ça va de ceux qui sont convaincus qu'il faut manger bio à ceux qui se disent, tiens, j'ai envie un peu de changer ma manière de faire, j'aimerais bien avoir un peu plus de conscience dans ma manière d'exister, comment je fais mes lessives, comment je dépense mon énergie, comment je dépense mon eau chez moi. Je vais faire un tour au salon Vivre Autrement, savoir qu'est-ce qu'on me propose comme alternative de vie. Et là-dedans, ils ont la chance de tomber sur une vingtaine de vignerons super passionnants et tous aussi bons les uns que les autres. Donc,
Pour vous, les vignerons, Fabien Boisard ?
Bah, c'est ça, oui. On touche vraiment un type de clientèle très, très différent. Aussi bien des épicuriens du vin que là, on va devoir aussi un peu sensibiliser à notre manière de travailler, que des gens qui sont plutôt sensibilisés au respect de l'environnement. Et là, au contraire, on va plutôt avoir besoin, entre guillemets, d'éduquer un petit peu sur le vin, sur la dégustation ou autre. Donc, une palette de clients assez différents.
Par rapport à un public de salon des vins qui est déjà un peu expert, là, il y a des gens qui n'ont pas spécialement l'habitude d'aller déguster des vins et parler avec des vignerons.
Complètement, exactement ça.
Alors, Sabine,
oui,
j'ai posé la question, est-ce que c'est un salon, être dans un salon de vin bio, c'est différent d'un salon de vin traditionnel? Tu m'as répondu tout de suite, moi je ne fais que des salons de vin bio.
Oui, je ne fais plus que des salons de vin bio. Voilà, oui, parce que c'est un choix. D'abord, on n'en fait pas beaucoup, puisqu'on vend quand même, nous, beaucoup après à des cavistes qui représentent nos vins, à des magasins, à des boutiques bio qui vendent nos vins maintenant depuis plus de 30 ans. Et donc, c'est vrai que les salons, c'est une façon de voir la clientèle particulière. Et nous, on a toujours travaillé dans le milieu du bio, puisqu'on a été certifié depuis 1974. Voilà. Et le grand-père de mon mari a refusé d'utiliser les produits chimiques dans les années 50. Donc, on a toujours travaillé cette façon-là. Donc, c'est vrai que quand un client me demande quelle est la différence d'être passé en bio, ben, on ne sait pas, parce qu'on a toujours travaillé cette façon-là. Voilà.
Bah, chapeau, voilà. Parce que c'est clair. Il n'y a pas beaucoup de domaines. Nous, on rencontre énormément de vigneronnes et de vignerons qui sont en conversion ou qui ont... souvent, c'est cette génération, la génération d'avant a fait de la chimie et puis la génération des quarantenaires d'aujourd'hui, c'est eux qui ont fait la bascule. Là, non. Donc,
oui, vous, mais là, il y a eu aussi des gens depuis très longtemps qui ont décidé de ne pas utiliser de produits chimiques hein, et qui n'en ont, et donc qui ont fait ce choix-là. C'est vrai que dans les années 80-90, on nous regardait avec des yeux en nous disant on traitait un peu de fou, hein. Ça c'est sûr. Mais bon, on a tenu bon, on a travaillé comme travaillaient nos grands-parents, le respect de la nature. Et donc, pour nous, c'était l'expression du terroir de pouvoir avoir des vignes qui puissent justement pouvoir prélever au niveau du sol toute l'expression que pouvait apporter chaque cépage dans son terroir.
Justement, ce qui semble en tout cas assez rare, pas trop vous le dites, mais d'avoir un terrain à la fois plante et terroir sain depuis très 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 longtemps, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Beaucoup de gens doivent reconquérir, on va dire, un terroir ou un terrain, un sol qui a été pollué. Est-ce que ça change? Est-ce que vous voyez des choses différentes du fait d'avoir, et si oui, quoi?
Alors, j'ai pas pu faire la comparaison avec mon domaine, mais justement avec des domaines d'amis vignerons qui sont passés en bio. Tout à l'heure, nous avons parlé d'un domaine qui est à côté de chez moi, que vous connaissez. Le domaine de Cazeneuve, donc André Lénard, qui, quand il est passé en bio, a bien évidemment eu beaucoup de fraîcheur, chose que nous avions déjà sur nos vins. Cette fraîcheur qui émane, qu'on retrouve, parce que justement, le vin bio amène cette fraîcheur. Et donc, on a besoin de fraîcheur dans un vin. Et ça, c'est important. On a des vins chaleureux hein, dans le Languedoc. Donc, quand on a un petit peu de fraîcheur qui émane du terroir, et ce n'est que positif.
Fraîcheur parce que les vignes vont plus loin, elles vont chercher plus de minéralité. Parce que
plongent profondément, justement, pour aller récupérer l'eau, les matières qu'elles vont se nourrir. Et donc ça, c'est important. C'est vrai que quand on est en chimie, la plante est plus feignante. Elle va rester en surface puisqu'on lui amène de quoi manger. Voilà.
Et donc le domaine de la tribale, là, on est, c'est quoi à peu près la taille? C'est quoi le terroir du coup? Les grandes caractéristiques du terroir?
Alors on a deux terroirs. On a la chance d'être en fin de terroir des Grès de Montpellier qui est sous une affluence maritime. Donc on est face à la mer. On va avoir justement ce côté qui va faire chaud la nuit, le jour. Donc cette influence maritime va apporter beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur et un côté soyeux au vin. Après, sur la partie Pic Saint-Loup, on va être plutôt tourné vers les Cévennes avec beaucoup plus chaud la journée parce qu'on est sur un sol de faille calcaire, mais en même temps plus froid la nuit parce que la fraîcheur va émaner des Cévennes. Et donc, on a un choc thermique qui fait que les vins ont une autre personnalité, d'autres caractéristiques. C'est beaucoup plus garrigue, cette fraîcheur qui est très importante, qui vient caractériser les vins. Et en plus, on a beaucoup d'épices et c'est très riche, oui.
D'accord. Et on est sur les cépages classiques, on va dire Syrah, Grenache.
Voilà, Syrah, Grenache et Carignan. On a de très vieux Carignan, donc on arrive à faire de très belles choses aussi.
D'accord. Travaille en monocépage ou pas le Carignan ?
Non, on ne travaille pas en monocépage avec le Carignan. On a toujours des assemblages parce qu'il faut savoir que dans le Languedoc, les vins d'appellation sont automatiquement en vins d'assemblage. Bon, on fait quelques monocépages, mais là, on s'amuse plus avec des cinceaux, des vins très légers, d'accord, gouléants, des vins de soif.
D'accord.
Mourvèdre un peu, non ?
Pardon ?
Mourvèdre un petit peu.
Alors, Mourvèdre, j'en fais, mais en rosé. Voilà, je fais un rosé de Mourvèdre avec un petit peu de Syrah. Voilà.
Et donc là, on déguste, juste pour info.
Alors, il était temps, donc il était temps à une histoire, hein, parce que notre domaine a mis 20 2017. Ans. Voilà, 2017. A mis 20 ans à avoir l'appellation Pic Saint-Loup. Et donc c'est vrai que c'est un vin qu'on a attendu. Donc pendant longtemps il s'appelait En attendant que. Et maintenant il s'appelle Il était temps. Voilà, c'est notre petite histoire. On a mis presque une gestation pour le faire. Hein. Un bébé qui a grandi et qui est enfin arrivé. Il faut savoir que l'INAO est une vieille dame et qui met beaucoup de temps à mettre en place les appellations. Mais bon. Ça y est, en 2017, on avait eu la chance d'être passé en appellation.
Je rebondis sur ce point d'appellation Ilianao. Cette semaine, on a appris une modification dans un cahier des charges. Si je ne me trompe pas, la première fois qu'un cahier des charges d'appellation inscrit l'interdiction d'intrants chimiques, c'est patrimoniaux en Corse, où ils ont inscrit dans le cahier des charges. Et d'après ce que j'ai lu cette semaine, c'est la première fois qu'une appellation impose d'être bio, en fait.
Bonne question.
Vas-y, là, il y a une appellation qui est 100% bio en France.
Oui, mais est-ce qu'on leur a imposé d'être bio ? C'est ça. C'est ça.
Bah, c'est une toute mini appellation en Savenière, Coulée de Serran, puisqu'il n'y a qu'un vigneron.
Ah oui, c'est un monocépage.
En biodynamie.
Nicolas Joly, oui.
Voilà.
Après, vous avez des.
Là, c'est la volonté d'un homme, là.
Des petits villages. Il y en a notamment un dans le sud de la France où tous les vignerons sont en bio. Donc, c'est pas une appellation, mais c'est tout un secteur.
C'est les Baux-de-Provence, non ?
Il y a une petite différence, c'est pour ça que je rebondis sur le point de l'INAO. C'est-à-dire que, en fait, je crois savoir qu'à Patrimonio, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tout le monde faisait déjà du bio. Mais ils ont choisi de l'inscrire dans le cahier des charges, qui est quand même.
Moi, je suis au courant parce que j'ai ma fille qui vivait jusqu'à quelques jours en Corse et qui travaille à l'INRA et dont elle a des amis qui, justement, s'occupaient du dossier avec l'INAO pour mettre en place cette particularité que c'était.
Je pense qu'il y a un peu de corsitude en plus là-dedans.
Voilà.
Hein, de volonté de.
Ouais, juste rajouter quand même que dans beaucoup, beaucoup de cahiers des charges d'appellation maintenant, le glyphosate, donc les désherbants, ont été limités. Donc souvent, c'est à 50% dans beaucoup d'appellations. Mais ça, c'est rentré dans les cahiers des charges de beaucoup d'appellations depuis presque une dizaine d'années maintenant, quand même.
Et là, on parle des appellations assez... Alors bon, patrimoniaux, c'est quand même une semi-grosse appellation, mais ça reste, pas anecdotique, mais ça reste assez limité par rapport à certaines appellations françaises. Un exemple, moi, qui me plaît bien, on n'est pas dans le cahier des charges obligatoire d'être en bio, mais par contre, ils imposent à tous leurs vignerons maintenant de commencer une démarche HVE. Alors même si je trouve que c'est un peu hypocrite, la démarche HVE, en tout cas, c'est un premier pas. C'est le Saint-Émilion.
Saint-Émilion,
Saint-Émilion, et là, pour le coup,
là, c'est HVE,
haute valeur environnementale. Pour moi, ça doit être un
premier
pas vers la bio.
C'est plus impactant en termes d'image, quoi, que ce soit Saint-Émilion qui s'y mette. Quoi.
Mais Saint-Émilion qui s'y met, bah, on salue. Le jour où la Champagne s'y mettra, ça sera aussi...
Mais qui ne supprime pas la chimie de synthèse.
Mais qui ne supprime pas... Non, mais HVE, c'est vrai que c'est pas non plus... HVE, c'est pas une solution.
C'est pas bio.
C'est pas... Ah non, c'est pas du tout bio. Mais de savoir que ça peut être un prémisse à la bio. Et c'est en tout cas moins pire.
En fait, c'est un peu là où je vais en venir. C'est-à-dire que cette institution... dont on sait que, enfin, d'abord, elle est historique, elle est là, elle a toutes ses vertus. Tu disais, on a mis du temps à avoir l'appellation quand elle est venue. Bah, c'est une satisfaction quand même pour les vignerons. C'est un cadre très intéressant, mais dont on dit aussi qu'elle est un petit peu lente à réagir. On espère, on attend que l'institution embrasse ces sujets-là de manière un peu plus... active et qu'il y ait comme ça des cahiers des charges qui évoluent, HVE c'est peut-être un pas. Effectivement, quand c'est une grande appellation, ça a plus de poids, mais pourquoi pas aller dans plus d'endroits vers la bio, quitte à dire sous 5 ans, sous 10 ans à la limite. Bah,
c'est ça qu'il faudrait, surtout qu'HVE, finalement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Sabine et Fabien, mais il y avait agriculture raisonnée qui existait déjà.
Oui, ça suffisait. Oui,
alors, faire encore un palier entre agriculture raisonnée, agriculture bio avec HVE, est-ce que ce n'est pas reculer pour...
Un peu dans le greenwashing
C'est reculer pour mieux sauter, tant mieux, mais j'en suis pas sûre.
Ouvertes, de toute façon, hein, qui veut faire ce qu'ils veulent, quoi.
Oui.
Pour faire bouger les appellations, de toute façon, c'est toujours le collectif et les vignerons. S'il y a une volonté des vignerons, après, l'INAO, elle va suivre. Même si c'est très long, comme vous l'avez dit, à se mettre en place, il faut d'abord que ça vienne d'une volonté des vignerons.
Et alors, est-ce que la volonté des vignerons ne vient pas d'abord de la volonté des consommateurs, en fait ? Là, on est dans un salon, il y a des gens qui se déplacent par milliers. Je ne sais pas quel est le compteur final d'un salon comme Vivre Autrement, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde quand même. Aujourd'hui, on est vendredi, ça dure 4 jours. Les consommateurs, il me semble, sont de plus en plus nombreux à demander des vins bio.
Oui, je pense, mais c'est pour ça que, entre guillemets, je ne sais pas si Saint-Emilion le fait à son corps défendant, mais Bordeaux a fait moins de 10%. Cette année encore en termes de vente, donc je pense qu'ils n'ont juste pas le choix en fait. C'est-à-dire que Bordeaux, malgré tout, alors certes, il y a Bordeaux, il y a deux marchés, il y a le marché spéculatif mondial, les Chinois ils achètent ou ils achètent pas et ça influe les cours des grands crus, mais Bordeaux ils ont fait moins 10% cette année. Et moi en tout cas personnellement, alors ce n'est que moi, mais je suis un consommateur parmi d'autres, j'ai plus vraiment envie d'aller chercher du Bordeaux, à part d'aller chercher des trucs exceptionnellement Pontécanet parce que ça y est, ils font une vraie démarche dans ce domaine-là. Puis Saint-Arnaud, je ne sais plus comment il s'appelle, Thierry Valette, qui fait ça aussi depuis un certain temps. Mais ça m'intéresse moins d'aller à Bordeaux spontanément. Et je pense qu'ils n'ont pas le choix. Enfin, là, pour le coup, le consommateur a un grand pouvoir. Et Bordeaux en subit, entre guillemets, depuis quelques années, les conséquences. Parce que c'était un peu le truc, un peu, comment dire, c'était les bourgeois quand même, avec les bourguignons du vin en France. Et qu'ils n'étaient pas obligés de changer, parce qu'ils étaient sur une manne. Mmh. Maintenant que la manne est un peu grappillée, ils se sentent obligés. Alors, il y en a qui ont fait des vraies démarches. Hein. Et encore une fois, j'ai rien contre Bordeaux parce que c'est probablement, on le sait assez peu, on parle que des grands crus, etc. Mais la meilleure rapport qualité-prix du monde en 5-15 euros. Enfin, il y a plein de choses merveilleuses. Mais là, ils n'ont pas le choix. Enfin, je pense qu'ils n'ont pas le choix.
Avec un petit décalage, comme souvent, dans toute l'agriculture d'ailleurs. Mais le pouvoir du consommateur, oui, il est hyper important. Oui.
Mais c'est une histoire d'homme aussi. Hein. Là, je vois dans notre appellation Grès de Montpellier, mon mari est le président. Eh bien, c'est vrai qu'on a fait des émules. On est à plus de 50% de producteurs en bio dans l'appellation Grès de Montpellier. Donc voilà, c'est à un moment donné, il faut avoir des gens qui sont là pour...
Il faut avoir des moteurs. Comme,
voilà, des moteurs, tout à fait.
Nicolas Joly en Loire. On a eu Arena au Patrimonio. Aussi, on en parlait.
Et il faut participer au travail collectif à l'intérieur de nos syndicats. Pendant longtemps, les bio participaient pas forcément beaucoup. Donc, pour moi, c'est vraiment important.
Exactement.
D'être à l'intérieur et de pouvoir faire avancer un peu les choses.
D'entrer dans le système pour essayer de le faire évoluer. Mais on a envie de faire une chose, parce que souvent, on interviewe très souvent des vigneronnes et des vignerons dans cette émission, mais en général, on est thématique autour d'une région. Et là, on s'était dit, c'est quand même sympa, c'est d'avoir des vignerons de deux régions différentes, puis on a envie de vous faire faire un exercice, on ne vous a pas du tout prévenu, mais c'est de parler du vin l'un de l'autre. Fabien, tu viens de goûter donc le vin de Sabine Durand,
il était temps.
Il était temps, oui.
C'était le Pic Saint-Loup ?
Oui, c'est ça. Tout à fait.
Il était temps. Qu'est-ce que tu dirais de ce vin ?
Alors, on est sur des choses quand même très confites, hein. des arômes vraiment de fruits. Nous, on a un peu moins l'habitude en Loire.
Toi qui travailles le Cabernet Franc plutôt d'habitude en Loire.
Ah bah là, on arrive quand même rarement à ce type d'arôme aussi confit. Donc solaire. Par contre, avec un équilibre en bouche, moi que je trouve très intéressant et je retrouve effectivement beaucoup de fraîcheur, voilà, qu'on n'a pas toujours dans les vins du sud. Où, alors après, ça dépend aussi des millésimes, mais en bouche, j'ai un équilibre vraiment intéressant avec des tanins très soyeux, fraîcheur, et puis sur des arômes, voilà, hyper solaires et confits. Ouais.
Je crois qu'on est à 75 Syrah, 25 Grenache, c'est ça ?
Tout à fait.
On sent bien la Syrah sur le côté épicé, fraîcheur, et on sent un peu de muscle, un peu de structure.
Voilà, on a ces côtés poivrés, bien évidemment, la Syrah. Oui.
Non, c'est très... Enfin, moi, je trouve ça génial. Enfin, très bien.
Et c'est à 17, hein ?
C'est un 17.
Ça va très très jeune, quoi. C'est voilà. La dernière.
Ah oui, oui, on voulait fêter nos 20 ans. Hein. Ça faisait 20 ans qu'on attendait, donc on a été un peu pressé de le mettre en bouteille, hein, c'est vrai. Mais bon, on est content du résultat, oui, oui. Oui, oui, surtout qu'il y a eu une dégustation qui a été faite dernièrement par la revue des vins, pas la revue des vins de France, non. Je vais y arriver.
Terre de vin.
Non, pas Terre de vin. Sur le, ça me reviendra. Enfin, c'est pas
qu'est-ce
grave.
Et
donc notre vin était sélectionné parmi les crus Pic Saint-Loup, donc ça nous a fait plaisir. Ouais.
D'accord. Okay. Non, mais c'est très agréable.
Cuisine des vins de France. Voilà.
Cuisine des vins de France.
C'est très agréable de voir tout de suite, et je pense qu'on peut le garder encore.
C'est l'émotion. 3 et 5 ans.
Ah oui, c'est ça. Ouais. Plus que ça.
On va faire l'exercice inverse. On va verser un petit peu de Cabernet Franc. On est dans un domaine, un cépage complètement différent. Peut-être pendant qu'on le verse, une question, Sabine Durand. Par rapport au changement climatique, par rapport à ces problèmes posés, notamment quand tu es né dans une région comme Montpellier, où le risque, c'est bien souvent d'avoir des vins qui sont trop lourds, trop riches, trop... Voilà, on veut garder cette finesse, cette fraîcheur. Donc il y a la piste du fait déjà d'être dans bio, d'avoir des vignes qui vont loin. On a de la fraîcheur. Alors, quand on est à Pic Saint-Loup, on est un peu plus en altitude, on a aussi un petit peu de fraîcheur. Comment vous répondez à ça ? Est-ce que vous...
Mais d'abord, il y a un travail du sol qui est très important. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater. Si vous voulez, une année avec beaucoup de sécheresse, pour pouvoir garder la fraîcheur dans le sol, eh bien, il va falloir régulièrement, dans l'été, aller passer des disques pour pouvoir garder cette fraîcheur. Ça, c'est ce qui est très important. Bien évidemment, le faire à une certaine période.
C'est dédié, ça veut dire retourner un petit peu la terre.
C'est juste pour éviter que ça se faille, que la terre se fend et que la chaleur rentre dans le sol. Ça, c'est très important. Voilà. Parce que si la terre est fendue, eh bien, la chaleur va rentrer et automatiquement, ça va crevasser. Et là, c'est fini. On a perdu toute la fraîcheur qui restait dans le sol. Ça, c'est très important. Après, il faut garder beaucoup de végétal, c'est-à-dire que au niveau des feuilles, il faut avoir vraiment une couverture végétale très importante pour que le raisin reste
protégé à l'ombre.
Voilà, pas au soleil. On ne peut pas faire les mêmes cultures dans toutes les régions de France. Dans certaines régions, on va mettre le raisin au soleil pour éviter la pourriture, etc. Ben nous, c'est l'inverse. Nous, c'est pour éviter le soleil. Voilà.
Fabien Boisard nous a versé un petit peu de sa cuvée.
180 jours.
180 jours.
Avec un visuel qui appelle le tour du monde.
Mais déjà,
un petit peu, quand même.
180 jours, ça interpelle. Fabien, vous ne pourriez pas nous présenter un peu le terme de 180 jours avant la dégustation de Sabine ?
Oui, après la dégustation, parce que sinon je vais tout dire sur le vin. Oui.
D'accord. Toi aussi, Lila, tu peux intervenir sur la dégustation. Hein.
Alors, j'ai la chance de connaître les deux vins, mais je trouve l'exercice assez rigolo de les laisser tous les deux parler l'un et l'autre. Si je peux ne pas m'exprimer pour cette fois, je vous laisse.
Tu feras l'arbitre, tu donneras ton avis à la fin.
Je suis pour la peau des ménages, moi, la paix des ménages.
La peau des ménages,
et des appellations.
Et des appellations, bien entendu.
Voilà, on a quand même un vin quand même qui est bien épicé. Hein. On retrouve une palette d'épices intéressante, hein, avec aussi de la fraîcheur, mais différente de la nôtre. Hein. On a une acidité qui va donner une belle longueur au vin. Et en même temps, on a toutes ces notes un petit peu torréfaction. C'est
animal, moi, je trouve.
Oui, enfin, oui, le côté...
Moi, j'adore ça. Le côté, beaucoup n'aiment pas le côté écurie. Bien sûr, c'est pas beau quand c'est très marqué, mais moi, le côté animal, fourrure, oui. Venaison, etc., ça me rappelle plein de souvenirs, mais moi, j'aime beaucoup ça.
Mais torréfaction complètement, oui. Je te suis avec le côté un peu grillé.
Grillé, là, c'est...
Pain grillé, toasté, c'est assez gourmand aussi. Ouais.
C'est difficile de faire deux vins plus différents, en fait. Parce que cépage différent. C'est un vin jeune aussi, hein, 180 jours. Fabien, tu nous expliques pourquoi 180 jours ?
Oui, alors là, je me suis amusé un petit peu. Puisqu'on a parlé des appellations, j'ai emmené une parcelle, en fait, qui date d'avant les premières appellations. Donc d'avant 1930, donc c'est une très très vieille parcelle et qui n'a pas droit à l'appellation. Donc on est en vin de France, tout simplement parce qu'elle ne correspond pas au cahier des charges de l'appellation. Elle est plantée en 2,50 m de large et nous c'est 2 mètres obligatoire.
D'accord.
À l'époque certainement pour des contraintes de peut-être d'autres cultures, de polyculture. Ils faisaient certainement d'autres cultures entre les rangs de vignes. On ne sait pas exactement. En tout cas, on est planté en 2,50 m. On n'est qu'à 4 000 pieds à l'hectare. au lieu de 5000. Et du coup, cette parcelle, on la garde parce que on veut garder la sélection végétale qui avait été faite à l'époque. Donc la sélection de Cabernet Franc qui avait été plantée à cette époque-là nous paraissait certainement intéressante. Et surtout, elle a donc pendant pas encore 100 ans, mais 90 ans, entre guillemets, était sensibilisée aux différentes maladies, aux différentes choses qu'on puisse passer. Donc en fait, on fait des sélections massales dans cette parcelle-là. Donc on sélectionne des bois l'hiver pour les remettre en pépinière avant de les replanter dans d'autres parcelles. Et donc on la garde pour cette raison-là principalement. Et avec le peu de raisins qu'elle nous donne, puisqu'elle ne donne plus beaucoup de raisins, on s'amuse à faire une macération très particulière. Donc 180 jours correspond à la durée de macération.
Ah oui, quand même.
Donc on laisse macérer les grains de raisin sans la rafle dans des vieilles barriques pendant 6 mois.
En modèle carbonique ou enfin en modèle bourgelais?
Non, non, éraflé, donc modèle.
Oui, mais c'est pas intracellulaire, on laisse pas le chat. On ferme.
C'est en barrique.
D'accord.
Carrément. On s'amuse à remplir des vieilles barriques de petits grains de raisin.
D'accord.
Et on les met.
C'est enfiler des perles en fait, quelque
part. Oui, ça dure une heure et demie pour une barrique. Oui,
quand même.
C'est un petit peu long. Et après, on les emmène en cave, donc à température de 12-13 degrés. Et elles vont, donc pendant les deux premiers mois, on tourne la barrique en fait tous les jours, d'un seul tour, pour que ça macère, pour que tout le jus soit remis en contact. Et ensuite, quand l'activité fermentaire se calme, on les laisse tranquilles jusqu'à fin avril. Donc voilà, l'idée c'est d'aller chercher vraiment tout ce qu'il y a dans les pots de raisin et dans les pépins de raisin. Donc on a parlé de côté torréfié, c'est vraiment dû à la macération avec le pépin de raisin qui va donner ses notes. Alors certains vont trouver sève de pin, c'est très séveux, torréfié, ça dépend un peu des sensibilités de chacun. Avec en bouche quand même des tanins et des amers, c'est du cabernet.
C'est présent.
On a été loin dans l'extraction quand même.
Ouais, c'est extrait.
Voilà.
Tu mets le mot, il y a des amers. Et moi, j'apprécie loin, toujours ce petit côté, cette petite amertume-là.
Et les vignes, elles ont quel âge du coup?
On ne sait pas exactement l'année mais de plantation, bon signe, mais d'après le vigneron qui nous les a transmis avant 1930,
d'accord.
Entre 1920 et 1930.
Une bonne centaine d'années, quoi.
Je dis un truc débile, mais si vous plantez une rangée entre les deux...
On sera trop...
On serait trop serré.
Non, on va devoir l'arracher pour la remettre aux normes. Elle arrive de toute façon à un âge où malheureusement le rendement, on est autour de 15 hectolitres hectares, commence à être compliqué au niveau économique. C'est d'ailleurs une cuvée qui est vendue à un certain prix, principalement dû au rendement,
faible rendement,
peu de raisin. On se donne encore une dizaine d'années pour continuer à remultiplier ce qu'on a sur cette parcelle. Et puis après, on sera obligé de l'arracher.
D'ailleurs, c'est un des vins les plus chers du domaine.
C'est le plus cher.
Alors qu'il est hors appellation. Oui, Lila.
Et oui, non, mais parce qu'un rendement très très faible, c'est sûr. Combien de bouteilles? Parce que je vois qu'en plus, c'est très chic. Les bouteilles sont numérotées. Là, on a la bouteille numéro 300 à table. T'en fais combien en fait?
Alors, 6 barriques de raisin, de grains de raisin entiers, nous font à peu près 3 barriques de vin fini. Donc, on fait environ 900 bouteilles par an.
On est vraiment privilégié de goûter ce
vin. S'il faut moins que la Romanée Conti, quand même. S'il faut moins que la Romanée Conti.
Sans indiscrétion, combien sont vendus? Parce qu'on a l'habitude aussi de donner les prix des
24
vins.
24 euros.
Combien est vendu celui-là? 24 euros. Le Pic Saint-Loup qu'on a goûté.
18 euros.
18 euros, voilà. On est quand même prix assez raisonnables.
On est dans les prix raisonnables et je crois bon de préciser qu'on est dans les hauts de gamme dans les deux domaines à chaque fois. Parce que vous avez tous les deux des entrées de gamme beaucoup, beaucoup moins chères. Donc raisonnable et en plus des entrées de gamme pas chères du tout, quoi. Enfin des
on
hauts
a des
de gamme
vins pour tous les moments de notre vie. On a des vins de copains, on a des vins où on va plutôt avoir un moment plus privilégié. On a des vins de toutes sortes, oui.
Des vins au petit déjeuner, des vins.
Oui, voilà, c'est autre chose là.
Non, mais c'est vrai.
Tous les moments festifs entre amis, voilà.
Oui, oui. Et puis en mangeant, sans manger, pour le plaisir. Merci beaucoup à tous les deux, à tous les trois, Lila Carité, Sabine Durand, Fabien Boisard, d'avoir été nos invités. On va peut-être conclure en se disant qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant que vigneron, ces salons? Est-ce que vous vous rencontrez les uns les autres? Est-ce qu'il y a des moments comme ça de partage où vous goûtez les vins, ce qu'on a un peu fait là, modestement, pour une fois avec
on
un micro?
On aime toujours mais... troquer les vins avec nos confrères vignerons.
Vous repartez toujours
ça,
avec
sûr.
Des cartons.
Toujours, toujours, toujours. Ça, c'est certain. Et puis, c'est important aussi de se rencontrer. On n'a pas l'occasion de se voir toujours... on est dans des régions différentes, on est chez nous, on a beaucoup de travail, donc on n'a pas le temps d'aller visiter les uns les autres, donc c'est des moments où on a la chance de pouvoir se revoir, oui.
Voilà, du plaisir pour nos papilles, de la convivialité, mais aussi et surtout, on apprend énormément de choses par l'échange avec nos collègues. Bah là, par exemple, c'en est l'exemple parfait. C'est en allant goûter et en allant discuter avec des collègues vignerons qu'on s'est aperçu que des extractions et des macérations longues, ça donnait des choses intéressantes et on a eu envie d'essayer certaines choses. Donc ça peut donner plein d'idées pour faire des choses, plein d'idées aussi dans notre travail au quotidien dans les vignes. Parce que des fois on est figé sur des méthodes de travail, mais au contraire on peut être amené, suivant l'évolution du climat, à essayer d'autres choses, d'autres méthodes de taille, d'autres faut pas que ça soit figé quoi. La bio c'est aussi progrès et avancer quoi, sur plein de choses.
Et puis un peu l'expérimental aussi quelque part,
complètement,
le partage d'expérience.
Merci à tous les trois, merci Patrice, merci Grégoire. On vous laisse du coup retourner à vos stands parce que là il y a du
merci.
Monde. À très bientôt.
À très bientôt.
À bientôt, au revoir, merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bye.